les œuvres. Du fait qu'il est décédé, bah finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, même si pour les jeunes maintenant, quand on parle des années 50, ça leur semble comme si on parlait de Charlemagne, mais dans la réalité, donc, il y a certaines œuvres qui sont encore soumises à des conditions et on ne peut pas toutes les montrer. Donc, j'ai sélectionné essentiellement des œuvres qui sont en France, il y en a quelques-unes à l'étranger quand même qu'on a pu avoir. Mais des œuvres qui sont, et c'est pas plus mal parce que comme ça vous pourrez éventuellement les voir, des œuvres qui sont à Beaubourg, des œuvres qui sont au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui se trouve avenue du Président Wilson, et puis bien sûr des œuvres qui sont au musée de Biot, je sais pas si on dit Biot ou Bio, j'ai jamais su. Biot, hein, c'est ça, c'est ce qui me semblait, on prononce le T. Donc ils sont au musée de Biot, qui est vraiment le lieu de prédilection pour voir des Fernand Léger. Hein, voilà. Alors, ils ont une biographie qui est plutôt bien faite, parce que je ne veux pas prendre trop de temps avec ça, mais je vais quand même vous donner quelques éléments, et justement, je vais m'en servir de cette biographie, disons, pour avancer dans par rapport à mes diapositives, si vous voulez. Donc, ce n'est pas une biographie détaillée, c'est simplement des petits éléments pour mieux connaître Fernand Léger. Alors en fait, comme je l'avais mis dans le petit texte que j'ai pu écrire, au départ, rien ne prédestine Fernand Léger à devenir artiste, puisqu'il n'est pas du tout issu d'une famille d'artistes. Son père est un éleveur normand. Alors chez nous, on dit les emboucheurs, hein. En gros, c'est un peu ça. Hein, voilà. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il va devenir donc une des figures les plus importantes de l'avant-garde artistique parisienne. Alors bien sûr, on dirait la Normandie, Paris, c'est pas loin, mais c'est plutôt les origines, hein, qui sont intéressantes. Alors Fernand Léger, il est pas très studieux, hein, ça n'intéresse pas à l'école, mais par contre, très vite, il s'avère excellent dessinateur. Alors ça, c'est quand même un avantage. Et il a la chance, parce que ses parents, là-dessus, sont quand même relativement sympas, puisqu'ils vont lui laisser prendre des cours de dessin, et il va travailler comme apprenti chez un architecte à Caen. Alors, être apprenti chez un architecte, c'est très intéressant, parce que cette notion de... c'est pas le dessin d'art, le dessin d'architecture, mais justement, ça demande une précision, une bonne connaissance de la géométrie que l'on va retrouver après dans ses œuvres. Hein? Donc c'est pour ça que c'est quand même important de savoir un petit peu d'où il vient. Et finalement, ses parents l'autorisent à monter à Paris. À 19 ans, il arrive donc dans la capitale et il va suivre en auditeur libre les cours d'un peintre que je vous recommande, à chaque fois que je peux le citer, je le recommande toujours, c'est le peintre Jérôme. Jérôme avec un G. C'est un peintre qui est trop peu connu, malheureusement. Un petit peu plus maintenant, parce qu'il y a eu une exposition il y a quelques années au musée d'Orsay, mais qui est très intéressant parce que c'est pareil, quand on veut vraiment bien savoir dessiner, savoir peindre de façon académique, bien sûr, mais une forme d'académisme où, malgré tout, pour l'époque, il y a de l'avant-garde aussi, chez le peintre Jérôme. Hein. Donc, le peintre Jérôme est à l'École des Beaux-Arts, donc il suit en auditeur libre les cours de cet artiste. Et en fait, 1907 est une année décisive pour Fernand Léger et pour nous, pour notre cycle, puisqu'il s'installe à Montparnasse, à La Ruche. Alors, ceux qui ont suivi le cycle l'an dernier, j'avais malheureusement pu, pour diverses raisons, faire que deux séances. Mais je vous avais présenté La Ruche, hein, je vous avais parlé de ce lieu emblématique, et qui existe toujours. Hein, quand on va à Montparnasse, on peut toujours voir ce lieu. Et donc, il se retrouve dans l'effervescence de Montparnasse, puisque les artistes ont suivi Picasso. Au départ, l'effervescence, elle se situe à Montmartre. Et ensuite, quand on a la ligne de métro Est-Ouest qui est créée, eh bien, tout le monde file sur Montparnasse, Picasso y compris, hein, on abandonne le bateau Lavoir. Et les artistes, notamment tous les artistes qui viennent des pays de l'Est et puis d'autres, se retrouvent donc à Montparnasse. Alors, il va se lier d'amitié avec particulièrement Robert Delaunay. Donc, si vous connaissez un petit peu son œuvre, si vous ne connaissez pas, vous irez voir. Il y a beaucoup de couleurs et vous comprendrez, il y a des formes géométriques également. Vous comprendrez pourquoi ce lien. Avec Marc Chagall, bah, là, vous connaissez tous. Hein. Et puis, comme il va toucher à différentes formes d'art, il va aussi se lier d'amitié avec Blaise Cendrars. Et notamment, il illustrera un livre pour Blaise Cendrars. Alors, nous avons un point commun, quoi. J'ai un point commun avec Fernand Léger, c'est qu'il va avoir une passion pour un artiste qui s'appelle Cézanne. Et c'est vraiment lui qui va l'amener là où d'où il va démarrer et puis ensuite poursuivre. Parce que la leçon de Cézanne, il va la conserver tout au long de sa vie. Et il va, même s'il est un petit peu cubiste, Louis Vauxhel, le critique, dira qu'il est tubiste. C'est pas idiot. Hein, quand vous verrez les tableaux, vous comprendrez. Mais très vite, il va se détacher. Il garde la leçon de Cézanne. Mais très vite, justement, il va se détacher de Braque et Picasso, ne serait-ce que par la couleur. Hein, et c'est là où il est plus proche de Cézanne. Et au niveau de l'art cubiste, si vous voulez, il va être plus proche d'un artiste tel que Glaze. Hein, vous regarderez aussi par vous-même, parce que sinon, je peux faire un cycle que sur Fernand Léger, hein, si je vous montre à chaque fois les artistes. Donc je vous donne les noms, puis vous irez voir par vous-même. Et en fait, ce qui l'intéresse, Léger, il va se positionner très vite, un petit peu comme un reporter de son temps. Et c'est là où il rejoint Delaunay. Delaunay, il va représenter dans les stades, les affiches, vous savez, qui existent toujours, hein, qui sont placardées pour faire de la publicité dans les stades. Mais là, ce n'est que le début de la publicité dans ces années-là. Donc c'est très intéressant. Delaunay, lui, va retranscrire aussi son temps. Il va représenter, tout comme le fera Nicolas de Staël, il va représenter des matchs. Nicolas de Staël, c'est les joueurs de foot. Delaunay, lui, va représenter des joueurs de rugby. Eh bien, Fernand Léger, lui aussi, il veut être reporter de son temps. Il est contemporain de son époque, il veut montrer son époque. Et en fait, il va transcrire donc le dynamisme de toute cette époque. Là, on est en pleine effervescence, révolution industrielle, etc. etc. Et il va développer, de ce fait, une peinture qui sera totalement basée sur les contrastes de formes, de couleurs. Et ce que je viens de vous dire, la contraste de formes, de couleurs, ce sera d'ailleurs le titre de certains de ces tableaux, eh bien, il faut garder ceci comme étant la clé de voûte. En ce moment, on essaye de trouver une solution pour réparer Notre-Dame, donc je peux employer le mot clé de voûte. Hein. Ce sera vraiment la clé de voûte de son esthétique durant toute sa vie. Et ceci, même dans ses diverses évolutions, ça ne sera jamais remis en cause par l'artiste. Hein. Donc, contraste de forme, de couleur. Ça, il faut vraiment que vous l'entriez et que vous le gardiez jusqu'à la prochaine conférence. Alors, il va exposer au Salon d'automne, au Salon des indépendants, et participer, entre autres, à la section d'or. Hein, ça, c'est quand même important. Et puis, en 1913, il aura un contrat d'exclusivité avec un marchand très important, qui est Daniel Henry Kahnweiler. Hein, ça, c'est vraiment un des grands, grands marchands. Hein, il y a des noms comme ça.
Françoise nous a fait une conférence.
Formidable.
Kahnweiler, il y a 2 ou 3 ans.
Bon, bah alors, formidable, donc ça vous parle. Et bien sûr, il va y avoir une rupture brutale. C'est son départ pour la guerre de 1914. Et lui, il va pas être réformé dès le début, hein, donc il va rester relativement longtemps. Il va se retrouver au front. Et là, c'est intéressant pour nous parce que c'est un des très rares. Autant chez les Allemands, il y a beaucoup d'artistes qui vont représenter déjà la guerre et puis ensuite les suites, les conséquences de cette première guerre tellement, tellement odieuse, meurtrière, cruelle, quoi. Il n'y a aucun mot assez fort. Eh bien, Léger, lui, c'est un des rares artistes français qui va la représenter. Hein, pas beaucoup, mais un petit peu. Quand il est au front, eh bien, il dessine sur des supports de fortune Puis il sera donc hospitalisé et réformé en 1917. Et vous voyez, de 14 à 17, il se passe quand même du temps. Hein, voilà. Donc, je vais vous montrer les premières œuvres que je voulais vous présenter. Alors là, vous avez pu voir deux photos. Alors ça, c'est vraiment le Fernand Léger, mais je veux dire, ça lui correspond tellement bien. La grande photo, c'est vraiment lui, cet homme puissant, ce fils d'agriculteur solide, ce fils de la terre. C'est vraiment Fernand Léger. Hein. Et puis là, bah, vous le voyez justement avec son épouse. Hein. C'est pareil, c'est quelqu'un sur le plan vie privée. C'est pas quelqu'un qui va courir jupon. C'est pas Modigliani. Hein. Ça n'a rien à voir. Il aura une femme, Nadia, toute sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment, c'est la peinture, c'est l'art. Et puis bah, la vie à foyer, voilà, la stabilité. Je veux dire, la stabilité de sa peinture, on la retrouve dans sa vie. Ça ne l'empêche pas d'être ami, d'être en bon terme avec... Le tombeau des cœurs de l'époque, Pablo Picasso. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas m'embrouiller dans mes feuilles, parce que sinon, après, c'est ce qui me perturbe, pour vous parler le mieux possible. Je les ai classées, alors j'espère qu'elles vont le rester. Ça, c'est moins sûr, parce que ceux qui me connaissent bien, vous savez comment je fonctionne. Mais je vais quand même essayer de m'y tenir. Alors, avançons, si j'y arrive. Voilà, très bien. Donc ici, vous avez un dessin au crayon qui représente André Marre. En fait, c'est un ami d'enfance de Fernand Léger. Et tout à l'heure, je vous montrerai un tableau qui s'appelle La Noce. Il n'est pas impossible que Fernand Léger ait fait ce tableau à partir justement de la photo sur les marches quand André Marre et son épouse sortent. Alors, je ne sais plus si c'est de l'église ou de la mairie, mais peu importe, quand ils sont mariés, quand ils sortent en tant qu'époux d'un lieu, on va dire, comme ça c'est plus simple. Et il n'est pas impossible qu'ils se soient inspirés de cette photo. Donc, ils sont restés amis. Et c'est son ami d'enfance, mais son ami de Normandie. Hein. Donc ici, vous avez un portrait, et vous voyez ce qui est déjà très moderne, hein, parce que nous sommes en 1901. Et ce portrait, eh bien, il pourrait tout à fait figurer un portrait des années 50. On est vraiment dans quelque chose de très stylisé pour l'époque. Et effectivement, très bien dessiné, tout y est, il y a du volume. Même si c'est quelque chose d'assez strict, hein, il y a de la personnalité qui ressort. Il y a une étude de caractère, on va dire. Hein. Et puis, très sûr. Et puis, on sent quand même, effectivement, bah, celui qui a appris dans un cabinet d'architecture. Ça se sent dans le trait. Alors, un des tout premiers tableaux, alors, qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous allez voir ensuite, parce que si je ne vous avais pas mis de titre, si j'avais commencé la conférence en vous disant, bah, tiens, je vous présente mes voeux, j'avais envie de vous mettre des petites fleurs. Pour changer, tout le monde met de la neige, bon, bah, moi j'ai envie de vous mettre des fleurs. Très honnêtement, je ne suis pas convaincue que vous m'auriez dit ce tableau est de Fernand Léger. Il n'y a rien du Fernand Léger qu'on connaît en tout cas. Hein. Et très justement, effectivement. Alors, en fait, ici, on va dire que le thème de prédilection qui est choisi ici par Fernand Léger, bah, c'est tout simplement celui des impressionnistes, et plus particulièrement celui de Monet. Hein? Si vous allez au musée Marmottan, et puis même si vous feuilletez n'importe quel ouvrage ou allez sur Internet, puisque vous n'êtes pas comme moi, vous y allez, si vous cherchez Monet, ben vous allez trouver puis les impressionnistes en général. Hein. Donc, ici, la touche est rapide, en pâté, ben, comme chez les impressionnistes. Hein. La couleur se divise en petites taches. Ben, c'est encore une caractéristique. Petites taches, mais juxtaposées les unes près des autres. Donc là, on serait déjà presque plus dans le post-impressionnisme. Vous voyez, il est un petit peu entre les deux. Hein. Le thème est plus impressionniste, la touche est déjà presque plus post-impressionniste. Pas tout à fait, c'est pas du pointillisme, c'est pas du divisionnisme, mais on s'en approche. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi. Le cadrage, très particulier. Ça, c'est le cadrage impressionniste, hein, qui coupe une partie du motif. Et ça, je vous avais dit, à partir de... C'est là où les impressionnistes sont très novateurs, parce qu'ils vont travailler le cadre. Et le cadre, bah ça, c'est dû à la photographie, qui petit à petit s'installe. Hein. C'est pas à vous, habitants de Chalon-sur-Saône, que je vais apprendre ça. Hein, le cadrage photographique, très important. Et donc, l'impressionnisme, il est innovateur dans ce sens-là, aussi. Parce que, comme je vous avais fait les cours sur l'impressionnisme, hein, je vous ai montré combien ce mouvement, même s'il a été malheureusement après un petit peu tourneboulé dans tous les sens, on va dire, a apporté aussi. Hein. Mais justement, il a apporté et fait réagir les artistes qui après vont s'en détacher. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Fernand Léger. Fernand Léger, après, il va complètement fuir tout ce qui m'est pas renié. Fuir, c'est différent. Donc, je ne vais pas m'insister davantage sur ce tableau, hein, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Voici un autre tableau, celui-ci qui date de 1905, et qui s'intitule « Le portrait de l'oncle ». Alors, ce tableau-là, c'est une autre forme d'avant-garde qui va l'inspirer, là. C'est davantage Cézanne. Hein? Et les volumes, là, sont travaillés de façon plus sommaire. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le tableau précédent. Le fond, quant à lui, est brossé relativement rapidement. Ça fait un très beau fond abstrait, même si le mot abstraction n'existe pas encore. Néanmoins, le visage se détache, ressort. Hein. Le bleu est emprunté au portrait de la cafetière, Madame Cézanne à la cafetière. Vous voyez ? On est un petit peu dans cet esprit-là. Le visage est construit avec des masses roses, jaunes, un tout petit peu bleutées. Bon, ça ressort plus ou moins ici, mais dans l'original. Hein. Donc, vous voyez comment on construit ici. Et là encore, on est davantage dans le post-impressionnisme qui a pu engendrer aussi le travail de... justement de Cézanne, quand on regarde Cézanne. Et cependant, avec ces deux toiles, on voit que Léger, bah, qui est arrivé comme ça, tout neuf, hein, de sa Normandie, il va s'essayer à l'art de son temps. Quand je vous dis qu'il est contemporain, il y tient vraiment. Même si après, vous verrez, il va beaucoup s'intéresser à l'art classique, je vous donnerai les noms des artistes après, pour le moment... Il arrive à Paris, il regarde ce qui s'y passe et il est dans ce qui s'y passe, dans l'art de son temps. Sachez néanmoins qu'il a détruit bon nombre de ses toutes premières toiles. Alors, il ne les a pas, je vous ai dit, il fuit après. Donc, il ne les a pas vraiment reniées, mais pour lui, après, ça ne va plus, donc on détruit. Et justement, ce qui va tout changer, c'est la rencontre avec l'œuvre de Cézanne. Alors là, je vous ai mis quelques dessins. Alors, le dessin est très important pour les artistes de cette époque, hein, en fait. Léger, comme je viens de vous le dire, il a détruit énormément de ses toutes premières œuvres. Par contre, quand je dis il a détruit les toutes premières œuvres, c'est celles réalisées entre 1905 et 1910. Et donc, à cette époque... Il refusait que ses œuvres continuent d'être influencées. C'était plus fort que lui, il était influencé. Donc il refusait de plus en plus d'être influencé par l'impressionnisme, également par Matisse, les fauves. Donc il ne voulait pas rentrer dans ces deux courants. Et il a par contre conservé tous les dessins de cette époque. Et ben, ce qu'il dit, hein, je le cite, « Avant 1911, je me battais avec Cézanne, je peignais sous l'influence des impressionnistes et des fauves, mais ce n'était pas la chose à faire. J'abandonnais le pinceau pour un moment et me consacrais entièrement au dessin. Ceci apportait de l'ordre et de la clarté dans ma pensée et par conséquent dans mon œuvre. De l'ordre, j'ai insisté sur le mot, parce que pour tout le reste de son travail, c'est très important aussi, c'est comme les contrastes de formes. Et en fait, là vous avez trois nus de ces périodes, hein, différents. Eh bien, dans ces nus, Léger va jouer avec les volumes. Il va étudier le corps humain sous toutes ses faces, dans des positions très variées. On peut être debout, allongé, de profil, de dos, de face, penché, droit, etc. Et ce sont bien sûr des recherches très académiques au départ. Hein. Il va toujours traduire des formes très simples, mais avec un trait très précis. Là encore, réminiscence de son passage chez l'architecte. Et entre 1907 et 1910, comme il est donc dans le quartier de Montparnasse, il se rendait presque chaque soir à la Grande Chaumière. Vous savez, cette académie, l'Académie de la Grande Chaumière, où les jeunes étudiants pouvaient venir en ne payant quasiment rien, même si on était peu fortuné, on n'était pas refusé à la Grande Chaumière. C'était vraiment un lieu d'échange, un lieu où les futurs artistes étaient accueillis. Et là, il s'astreignait vraiment, lui. C'est ça qui était important, du fait qu'il avait travaillé dans un cabinet d'architecture où on demande, il n'y a pas beaucoup de souplesse chez un architecte, hein. On vous demande vraiment d'être à l'œuvre, de travailler. Il avait pris cette habitude. Donc là, pour lui, s'astreindre à faire quelque chose, ce n'est pas difficile, ça ne lui coûte pas. Donc, il s'astreignait vraiment d'après des modèles à dessiner des nus. Et voilà ce qu'il dira. J'ai alors pressenti que le dessin devait être rigide, pas du tout sentimental. Et dans toute l'œuvre de Léger, le mot sentimental n'apparaîtra jamais. Hein, ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et c'est pour ça que c'est bien que dès cette période-là, on le sente déjà. Donc il y a des nus masculins, des nus féminins. Je ne vais pas les détailler, hein, simplement, globalement, dans ses dessins, prédilection pour les galbes, ça c'est très important pour lui, les courbes, et ceci confronté aux arêtes vives. Hein. Et l'anatomie humaine est simplifiée au contour, il ne va pas aller chercher dans le détail, hein, ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Parfois même, là vous le sentez, notamment dans celui de 1909, c'est presque du croquis. C'est très, très, très simplifié. Dans celui qui est sur le sépia. Alors, on le distingue pas très, très bien. Moi, je le connais, mais on le distingue. C'est un nu masculin. Mais, voilà. Bien. Alors, je vais continuer. Et là, je vous montre une œuvre qui est, là encore, très très proche de Cézanne. Hein, je vous ai dit que la grande révélation, donc ça va être Cézanne, et je vais justement vous en parler. En 1904, Léger visite le Salon d'automne à Paris. Cette manifestation est dédiée aux artistes exclus des circuits académiques, donc Léger, ça l'intéresse, bien sûr. Et dans cette expo, il y a 42 œuvres de Cézanne. Alors, c'est un véritable choc pour Fernand Léger. Il y découvre donc là l'amour des formes, des volumes. Et là, vous voyez que ce portrait est vraiment, comment dirais-je, c'est le portrait de sa mère, hein, la couseuse. Le titre, c'est la couseuse. En fait, c'est sa mère. Ce portrait de sa mère est composé de volumes qui sont très géométriques. Je pense que vous le sentez. Hein, et je dirais, dans ce tableau-là, vous avez déjà tout ce qui va suivre. Tout ce que vous allez retrouver dans la période cubiste ou tubiste, puisque le mot me convient quelque part. C'est quand même Louis Vauxhall, hein, c'est pas du grand n'importe quoi. Et notamment quand il va représenter aussi bien les joueurs de cartes que certains, quand il va représenter le cirque Medrano, etc., on va retrouver de ces formes. Alors après, bien sûr, il va les travailler, il va s'éloigner de Cézanne parce qu'il va adapter son propre style, il va faire du Léger. Mais je vous parlais tout à l'heure de la femme à la cafetière, là c'est très proche, hein, de cette œuvre de Cézanne. Donc, si vous regardez bien, un cube pour la tête, un rectangle pour le nez, un cylindre pour les bras, et les bras cylindres, eh bien ça, on va les retrouver énormément. Mais, par contre, les couleurs ici sont plus sombres que celles de Cézanne, à cette époque-là. Après, il va arriver avec le rouge, avec les couleurs primaires. Et pour le moment, le bleu, il y a bien que les ocres clairs qui mettent un petit peu de chaleur, mais justement, les ocres clairs nous feraient davantage penser à un braque. Vous voyez ? Donc, il y a un petit peu... Il se cherche encore, hein, c'est normal. Il y a un mélange de tout ça autour de lui. Il est vraiment dans cette veine, dans cette ère du temps qui règne à Paris à cette époque-là. Donc, je continue. Et j'en arrive à ce tableau qui s'intitule « La noce ». Alors, ce tableau date de... Alors, ça, c'était les lieux. Ce tableau date de 1911, parce que comme je pose mes lunettes, excusez-moi, donc je ne lis pas forcément tout ce qui est écrit. J'aime mieux vérifier, parce que je vois, mais après, j'ai peur de me tromper, ceux qui ne me connaissent pas. Donc, en fait, au départ, deux titres pour désigner cette toile. Composition avec personnage ou... La noce, il y a même parfois, elle est intitulée « Les noces ». Alors, ce tableau sera exposé dans la salle cubiste au Salon des Indépendants de 1911-1912. Et il fut remarqué, donc c'est important parce que c'est un petit nouveau, hein, on ne le connaît pas. Il siège auprès des grands. Et il va être très vite remarqué, ce tableau, par de nombreux critiques. Et même si les critiques ne seront pas toutes positives, c'est toujours important d'attirer l'attention des critiques. Il sera accueilli avec circonspection, parfois même avec dérision. Bah, c'est quand même différent de ces différents Picasso, ces différents Braque, ces différents même de Launay, ces différents de Chagall, ces différents de... Ça commence à être un petit peu du léger. D'une partie de son œuvre. Et Guillaume Apollinaire, vous savez qu'il lui a toujours défendu les artistes, qui a beaucoup défendu les cubistes, justement, décrira ainsi l'œuvre, plutôt la commentera ainsi, je vous cite. « Le tableau de Léger ressortit à la peinture pure. Aucun sujet, beaucoup de talent. » C'est intéressant. La suite. « On peut craindre cependant que la veine de cet artiste, si elle n'est pas alimentée par une pensée, soit bientôt tarie. » Ça ne sera pas le cas. Mais voyez, pour le moment, pour un Guillaume Apollinaire, c'est vide de sens. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. Par contre, il reconnaît quand même beaucoup de talent. Mais Guillaume Apollinaire, il n'est pas, lui, il n'est pas du tout... Il reste dans le figuratif. Par rapport, n'oubliez jamais que le cubisme, c'est du figuratif. Et là, finalement, il serait plus proche d'un Chagall que d'un Picasso, hein, dans cette œuvre-là. Alors, ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que Picasso, lorsqu'il avait montré à ses amis peintres les Demoiselles d'Avignon, ça avait été la catastrophe. Tout le monde s'était dit, mais ça ne va plus du tout. Lui qui avait brillé dans sa période rose, sa période bleue, aux yeux de ses amis et du public, quand il montre les Demoiselles d'Avignon, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles resteront si longtemps dans son atelier et qu'il ne les montrera plus jamais, hein, pendant très 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 nombreuses années. Parce que pour lui, c'était l'œuvre. Mais ça n'avait pas du tout été perçu de cette façon-là. Et donc... Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les milieux bourgeois, bien pensants, les milieux intellectuels méprisent le cubisme. On aime l'art académique, l'art des salons, pas du Salon des Indépendants. Hein, c'est les critiques qui vont au Salon des Indépendants, les artistes, mais pas le public, le public, celui qui achète, celui qui fait vivre l'artiste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pays étrangers, l'Italie et surtout l'Allemagne, au contraire, eux, accueillent Fernand Léger. C'est extraordinaire pour eux. Voilà un artiste pour eux. Et un vif intérêt donc naît, et notamment auprès d'un célèbre marchand de tableaux en Allemagne qui s'appelle Alfred Flechtheim, qui lui ouvrira sa première galerie à Berlin à la fin de 1913. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui allait se produire. Et avait acquis ce tableau-là en 1912 à Berlin. Donc, pour lui, s'il acquiert ce tableau, c'est qu'il décèle chez Fernand Léger un artiste d'une extrême importance. Et en février 1928, la noce figurée en tête du catalogue de la rétrospective à la galerie Flechtheim à Berlin, il y avait 100 œuvres de Léger représentées. Présentes, pardon, pas représentées, présentes. Hein. Et ce sera, c'est vraiment pour lui, c'est vraiment l'œuvre. Donc, nul n'est prophète en son pays, hein, ça vous le savez. Alors, voilà ce que, à propos de ce tableau-là, puis à propos de ce qui va suivre, voilà ce que dit Fernand Léger. Là, je me permets, c'est pour ça que j'ai dit il faut du temps pour travailler sur Fernand Léger, parce qu'en fait, c'est un artiste qui a beaucoup écrit. Il s'est beaucoup confié à Dora Valier. Hein, je redis toujours, je cite Dora Valier quand je parle de l'art abstrait, parce qu'il y a cet ouvrage. Même encore aujourd'hui, il n'est pas dépassé. Bien sûr, il y a d'autres ouvrages, d'autres historiens de l'art qui vont plus loin maintenant. Mais il est toujours bon de relire Dora Valier et de son ouvrage L'art abstrait. Mais Dora Valier, elle a également fait comme des interviews avec les artistes. Et Léger donc s'est beaucoup confié, on a beaucoup retranscrit ses propos, lui-même a écrit, et voilà ce qu'il dira. « Sans Cézanne, je me demande parfois ce que serait la peinture actuelle. Pendant une très longue période, j'ai travaillé avec son œuvre. Il ne me quittait pas. Cézanne m'a appris l'amour des formes et des volumes. Il m'a fait me concentrer sur le dessin. J'ai alors pressenti que ce dessin devait être rigide, pas du tout sentimental, donc ce que je vous avais dit tout à l'heure. » Et la noce, donc ce tableau-là, s'inscrit bien dans sa manière cubiste, malgré son appellation, donc par le critique Louis Vauxel, je vous le disais tout à l'heure, de tubiste, au Salon des Indépendants de 1911, justement. Et on voit donc dans ce tableau-là l'originalité de Fernand Léger par rapport aux autres cubistes. Et comme je vous le disais aussi tout à fait dans mon introduction, Léger sera beaucoup plus proche de Gleize, mais aussi de Metzinger, hein, autre peintre cubiste, que de Braque ou Picasso, hein, bien sûr. Et je continue, voilà ce que dit Léger. Le cubisme, né d'une nécessité de réaction, débute en grisaille et ne se colore que quelques années après. Et il, dans une lettre qu'il adressera à Kahnweiler, son marchand, en 1919, il dira « J'avoue une exaspération de volume, de forme, élément qui reste toujours la base de mon travail actuel. Quand j'ai été en possession de ma forme, c'est-à-dire le volume modelé, alors la couleur est réapparue, d'abord grise, cézannienne, puis petit à petit a repris son importance. Entre 1909 et 1912, je menais la bataille de la couleur libre avec Robert Delaunay, que je vous ai cité tout à l'heure. Hein. » Et bien sûr, si vous voulez, l'œuvre de Delaunay, allez revoir les tours, hein, la tour Eiffel, notamment, hein, toute sa série de tours Eiffel. Allez voir aussi l'église Saint-Sulpice, allez voir tout ce travail de Robert Delaunay de ces années-là, hein, ces années 1912, 1910, 1911, 1912. Dans la noce, comme dans les œuvres cubistes, donc apparaît ce dessin strict, mais apparaît également la décomposition des personnages. Hein, ça, vous le voyez, vous le percevez. Les volumes géométriques aussi, hein, on le voit bien dans son œuvre. La construction verticale, là c'est flagrant. Hein, les contours cernés de traits noirs, les couleurs douces, discrètes, dominé par des blancs et des ocres. là, ça ressort bien. Merci au travail de Monsieur Colin, parce que ici, souvent, j'ai des déceptions, et là, je suis plutôt satisfaite. Pas des déceptions de votre travail, mais quand je suis à l'IUT. Déception par rapport aux écrans, des fois, ici, on a des choses bizarres. Mais là, c'est bien. Donc, merci, parce que je sais que vous y retravaillez toujours beaucoup. On a quelquefois des petites taches vertes, roses, bleues, bleutées, qui se retrouvent ici. Par contre, le sujet reste très anecdotique et il diffère totalement des natures mortes chères aux cubistes à cette époque-là. Léger s'applique, lui, à exprimer la troisième dimension, la profondeur que l'on n'a pas chez les cubistes de cette époque-là. Le mouvement que l'on n'a pas non plus chez les cubistes de cette époque-là, mais que l'on va trouver chez les futuristes. C'est dans l'air du temps, le mouvement. Et, par exemple, quand il représente le village, l'alignement des arbres, les personnages du cortège, ici, qui s'alignent, qui s'étagent sur divers niveaux, si vous regardez tout ça. Et bien sûr, ce que je vous ai appelé tout à l'heure la clé de voûte, le contraste des formes plastiques, contraste de formes arrondies, de formes cylindriques et coniques, vous le retrouvez ici, contraste des éléments statiques et des éléments dynamiques, opposition des surfaces plates à des choses davantage modelées, à des formes davantage modelées. Donc j'ai insisté sur ce tableau parce qu'il fait partie des tableaux les plus importants pour la suite. Alors sur certains tableaux, je passerai plus vite. Sur les plus importants, je passerai davantage de temps. Je vous le précise parce que c'est important pour la compréhension. Alors, là justement, contraste de forme. Et là, vous êtes vraiment dans le Fernand Léger de cette époque-là. Alors, vous pourrez aller regarder du côté de Marcel Duchamp, aussi. La broyeuse de chocolat, des choses de ce genre. Même le nu descendant l'escalier. Il y a quand même des choses qui se retrouvent. On est dans une recherche, dans une veine générale, on dirait, c'est dans l'air du temps. Et ça, c'est très sensible. En 1913, on sait que le marchand Kahnweiler achetait toute la production de Léger. Donc, je dirais, il en a de la chance, Léger. Parce que parfois, je pense à notre ami Van Gogh. Il aurait bien aimé qu'on ne lui achète pas toute sa production, mais seulement un petit peu de sa production. Léger, lui, il arrive, finalement, il n'a pas vraiment de formation, il n'est pas du tout dans ce milieu-là. C'est formidable. Mais il travaille, c'est un acharné. Et ça, je pense qu'il l'a pris de son côté normand. C'est une force de la nature, c'est une bête au travail, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, Léger. Alors, on n'arrive pas non plus à ça par hasard. Et il lui témoigne donc toute sa confiance dès 1913, Kahnweiler, et en plus il lui offre un contrat d'exclusivité. Ça c'est fabuleux. Donc Léger simplifie toutes les formes, il les rend plus grossières, il les ramène à des figures aussi proches que possible des formes fondamentales. Et les formes fondamentales, eh bien ce sont les cubes, les sphères et les cylindres. Et c'est bien ce que vous voyez ici. Montrant donc une prédilection particulière pour le cylindre. Ça, c'est vraiment ce qui va revenir systématiquement. Mais bien sûr, il prend toujours soin de sauvegarder l'intégrité de la forme et ne va jamais jusqu'à la briser. C'est là où c'est différent d'autres artistes. Ces figures de Léger se dressent, telles de puissants golems, de grossières poupées articulées. Les formes sont modelées, arrondies au moyen du clair-obscur, de la manière la plus simple, la plus expressive. Et là, je vous cite Kahnweiler, justement, à propos de ce tableau-là et des quelques tableaux qui vont suivre. Hein, il fait une remarque globale sur ces tableaux. Alors, en fait, ce que vous voyez, donc, c'est que Léger utilise, justement, un répertoire de formes géométriques simples. Lignes et motifs sont, justement, contrastés. La suggestion du mouvement est donnée très subtilement, j'ai envie de dire, par des oppositions de volume. Hein, et ça, vous le voyez bien ici. Hein. Je ne vais pas prendre, volontairement, je ne me sers pas de ma petite flèche parce que je pense que vous le voyez. Hein, en vous expliquant, je pense que vos yeux voient ce que je suis en... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Mes explications vous conviennent? Oui? Je me vois très attentive, donc ça me rassure. Non, parce que ce ne sont pas des tableaux, c'est pas forcément facile à rentrer dans Fernand Léger comme ça. Hein, c'est vrai que ça demande quand même explication. Il utilise entre autres comme support de la toile de chanvre. Et là aussi c'est important parce que elle apparaît dans... Là on ne le voit pas sur une diapositive, mais elle apparaît dans ces tableaux, ce qu'on appelle en réserve. Pour lui c'est important. La toile de chanvre, c'est pas... Elle n'est pas comme... Bon, ben, vous connaissez, je pense. Hein. Il y a même eu, des draps en toile de chanvre. Ça a dû exister chez nos grands-mères, je pense. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va employer ce qu'on appelle donc des couleurs pures. Moi, j'appelle ça des couleurs primaires. Hein. Là, il n'y a pas forcément le jaune, mais on a le bleu et le rouge. Et là, c'est un peu les couleurs des fauves. Hein. Les couleurs sorties du tube. Là, il les utilise vraiment... Le bleu, il va utiliser aussi le vert, hein, parce que maintenant le vert, ben, il existe à cette époque, je dis maintenant à cette époque-là. Hein, moi j'ai toujours l'impression de vivre dans le tableau, donc excusez-moi. À cette époque-là, le vert, ça y est, il sort du tube. Comme les fauves, ben, ils bénéficient de cette grande révolution, parce que mine de rien, ça a été une révolution, cette peinture sortie du tube. Et... il y a d'ailleurs un de ces tableaux que je vais vous montrer par la suite, qui va s'appeler, c'est la femme en rouge et vert, avec le sous-titre « Femme en rose et vert ». Hein? Donc les couleurs, il va même les utiliser dans les titres. Alors ici, le réveil matin, bah, si vous voulez, je les ai groupés, parce que c'est exactement le réveil, vous le voyez, je ne sais pas où est... Ah si, c'est là. Oui, mais vous le voyez. Il est en haut. On le voit. Ben, il y a la lampe. C'est-à-dire que c'est tout un mélange. Oui, voilà. Mais il y a aussi en haut, on peut le... Attendez, je suis en train de chercher pour pas me... Je voudrais vous montrer. Voilà. Ouais. Là aussi, si vous voulez, on peut considérer que c'est une lampe. Mais on peut aussi considérer que c'est le dessus d'un autre réveil matin. Vous savez, où on met les petits... Mais là, il n'y a pas les petites choses qui sonnent, là. Mais ça peut... Le chapeau de la lampe peut aussi reconstituer presque un réveil matin. Hein? Alors, on peut voir... Mais de toute façon, c'est contraste des formes, là encore. Hein? Je les ai regroupées parce que dans tous les commentaires que j'ai pu trouver, notamment, il y avait une exposition intéressante à Beaubourg. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire... L'expo la plus récente, alors là, j'ai pas eu le catalogue entre les mains, j'aimerais bien peut-être les contacter, c'est contacter le musée, le Beaubourg de Metz. En 1917, donc c'est tout récent, hein, nous sommes qu'en 2017, nous ne sommes qu'en 2020, il y a eu donc cette exposition au Beaubourg Metz sur Fernand Léger. Donc le catalogue est très fiable parce que c'est vraiment une des dernières recherches faites par des spécialistes, des historiens de l'art, spécialistes de Léger, sur cet artiste. Donc, il est, je ne vais pas vous le recommander plus que ça, puisqu'il est toujours dans la verve du précédent. Et je vais en arriver justement à cette femme en rouge et vert. Et puis, bah, je remercie M. Collin qui m'a trouvé un dessin préparatoire. Donc, c'est toujours très intéressant parce que c'est pas toujours qu'il va travailler avec des dessins. Parfois, il les a détruits. Et c'est vraiment, quand il travaille avec un dessin, c'est que vraiment le sujet le passionne. Hein? Donc, cette femme en rouge et vert fait toujours partie de ces contrastes de forme, hein, de cette série-là. Ce tableau date de 1914. Et ce que l'on sait, c'est que lorsqu'éclata la guerre de 1914, personne n'avait encore acquis cette toile. Et elle fit partie des biens séquestrés de Daniel Henri Kahnweiler, justement. Et on sait que c'est Léonce Rosenberg, donc autre grand collectionneur, hein, qui s'emporta acquéreur à l'hôtel Drouot lors de la deuxième vente des biens de Kahnweiler en novembre 21. Et il va la prêter, Rosenberg, en 1932 à Amsterdam, puis en 1935 pour une exposition qui s'intitule « Les créateurs du cubisme ». Et c'est Maurice Rénal qui a préfacé. Et voilà ce qu'il... Maurice Rénal, lui, qui sera le défenseur des cubistes, mais vraiment le défenseur de la première heure, un petit peu comme le sera Apollinaire. Et on se rend compte très vite que Rénal s'est tout de suite intéressé à l'œuvre de Léger. Et d'ailleurs, en 1920, il sera l'auteur de la première monographie. Alors, c'est quand même incroyable. Vous voyez, il arrive à 19 ans à Paris, Léger, n'est pas connu du tout. Il est repéré avec plus ou moins bonheur. Un marchand achète tout ce qu'il a produit à un certain moment, avant la guerre. Et puis, déjà, 1920, il a sa monographie. Ça va très, très, très vite. Ça va aussi vite que pour un Picasso. Sauf que Léger est beaucoup moins connu du grand public, j'entends. C'est incroyable parce que j'ai encore fait, il n'y a pas longtemps, le test. Cette année, j'ai la chance d'avoir dans la classe où je m'occupe de la classe de 6e. J'ai repiqué ma 6e. Je suis nouveau avec des élèves de 6e. Et dans la classe où je suis, je m'occupe de 3 petits qui... le professeur de français s'intéresse à l'art, donc de temps en temps leur montre des œuvres. Et peu importe ce qu'on montre, vous avez qu'un... Quand on demande qui est l'artiste, systématiquement, ils vous répondent Picasso. Mais même si c'est une œuvre classique, on a l'impression qu'on a enseigné que ça en primaire, ou je ne sais pas, ou ils n'ont que ce mot à la bouche, ou comme si Picasso avait vraiment anéanti tout autre artiste. Mais ça m'a presque interloqué. Je suis restée bouche bée parce que c'était quelque chose d'assez classique. Je ne sais plus, parce que c'était un artiste américain, mais qui n'avait rien à voir du tout avec Picasso. Mais Fernand Léger, je dirais, au niveau de la fulgurance de sa notoriété auprès des personnes qui après font les collections, a été très 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 vite remarqué de son vivant et dans sa jeunesse, je dirais. Mais justement par sa maturité qu'il avait acquise, je pense, avec justement sur le plan dessin auprès de son architecte, et puis ensuite, même s'il y allait en auditeur libre, auprès du peintre Jérôme. Parce que là, il a acquis quand même des choses. Hein. Et puis après, les échanges à la ruche, bien sûr, puisque nous sommes toujours dans Montparnasse, tout de même. Hein. Et voilà ce qu'écrira Rénal. Les intentions de Léger procèdent de 3 modes distincts auxquels il obéit comme à une discipline. Ressemblance, contraste et contiguïté. Pour Léger, les contrastes s'associent quand ils sont d'abord suscités par une seule cause. Il se lie encore à l'occasion de certaines ressemblances qualitatives, et plus encore lorsqu'il y a entre eux certains éléments analogie absolue. Voilà. Donc, cette toile-là, par contre, elle n'a vraiment plus rien d'abstrait. Le premier contraste de forme que je vous ai montré avant le réveil matin, on aurait pu considérer que c'était quand même quelque chose d'abstrait, de l'abstraction géométrique, bien sûr. Hein. Nous ne sommes pas dans l'abstraction de Kandinsky. Nous serions plus proches d'un Mondrian, pas dans le schéma orthogonal, mais nous serions tout de même plus proches d'un Mondrian, dans le côté rigoureux. D'ailleurs, il va, Léger, à certains moments, se recommandera du mouvement de Staël, hein, fameux mouvement des Pays-Bas, hein, très important également. Et en fait, si vous regardez donc ce tableau, si vous regardez le dessin qui l'accompagne, c'est totalement caractéristique de ce que Léger fait à cette époque-là. Et c'est intéressant de passer, là je vous laisse regarder, de passer du dessin au tableau. Dans le dessin, vous avez déjà tout. Tout y est, tout est présent. Après, ce n'est plus que la transposition avec les couleurs. Et puis, bien sûr, l'agrandissement, la façon de placer ces volumes. C'est très, très organisé. C'est pas du tout, c'est pas littéraire. Hein, quand il disait, il y a une phrase que je vous citerai plus tard, là on voit bien, c'est quelqu'un, c'est très, très strict. C'est beaucoup plus mathématique, scientifique même, on pourrait presque dire. Alors, ici, nous sommes justement avec ce dessin Verdun, les tranchées, 1916. C'est une aquarelle sur papier. Alors, ce que je veux surtout que vous regardiez dans un premier temps, c'est ici. C'est une aquarelle sur papier qui mesure 35 par 26. Donc, vous voyez, elle est très petite. Hein, et elle est conservée au MoMA de New York. Donc, ils ont su acquérir la bonne œuvre, j'ai envie de dire. Alors, comme je vous l'ai dit, Léger se passionne pour tout ce qui touche son époque, et y compris les deux guerres, puisqu'il va vivre, il va mourir en 55, donc il va traverser les deux guerres. Hein. Et là, il est ce qu'on appelle un poilu, quand il trace cette aquarelle, hein. Il sera mobilisé très tôt en plus, hein, dès le 2 août 1914, et donc cela jusqu'à la fin de 1917, quand il sera réformé. Et il est vrai qu'au front, c'est difficile de trouver un chevalet, une palette, donc il dessine sur des feuilles volantes, quand il ne dégaine pas sa petite boîte d'aquarelle. Et donc, dans les rares moments de répit, dans les tranchées, il croque le quotidien de ses frères d'armes. Il a connu donc l'horreur de la bataille de Verdun, hein, il y était, lui. Il esquisse ici, en quelques traits, ses camarades qui sont en train de creuser les tranchées. Les couleurs sont claires, j'ai envie de dire, elles seraient presque joyeuses. Ne m'en voulez pas, hein, c'est la réalité. Pourtant, si on regarde bien, on se rend compte qu'on distingue volontairement mal les formes. C'est volontaire. En haut, tout à fait en haut, on voit un corps. Vous le voyez? Oui? Attendez, je vais vous le montrer pour ceux qui le... Là. C'est vertical, hein, toujours. On voit un corps, on voit les grands morceaux de bois qui soutiennent les fossés, ça je pense que vous les voyez plus facilement. Hein. Alors je vais vous les montrer quand même, il y a là, hein. Et puis l'autre, il y a là. Il y en a peut-être d'autres, hein, que je vous ai pas montré. Néanmoins, toutes ces masses, elles se mélangent. Hein? Donc, d'où la difficulté pour distinguer les formes. Hein? Et ce qu'il a surtout voulu montrer, c'est l'horrible entassement des soldats dans les tranchées. Et c'est ça qu'il a voulu montrer, même s'il nous a mis un petit peu de rouge, bon, hein, un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Et en fait... ce qu'il veut montrer, c'est l'épuisement des soldats qui sont donc ici prisonniers, hein, de ce qu'on appelait les goulots. Hein, et ils sont totalement épuisés à creuser. Hein, c'est vraiment ce qu'il veut faire ressortir ici. Hein. Et donc, vous avez d'autres... ici, vous avez d'autres dessins de la même période, un autoportrait, qui somme toute semble très classique, hein, cet autoportrait. Et puis, vous avez d'autres portraits hein, de la même période, 1914. Et vous avez un dessin qui va nous servir pour la suite, hein, Soldat jouant aux cartes en 1916. Donc là encore, vous voyez, c'est un dessin sur une feuille, hein, une feuille qu'il a... parce que, évidemment, même parfois dans les tranchées, hein, quand il ne se passait rien, quand il ne creusait pas, il y avait quand même quelques moments de répit. Hein, pourquoi pas jouer aux cartes, effectivement. Hein. Donc, je vais voir... oui, voilà. Donc là, étude pour la partie de cartes, ce que je vais vous montrer après. Donc là, c'est très 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 beau parce qu'il arrive à rendre... je ne sais pas si parmi vous, il y a encore des personnes qui suivaient mes conférences quand je travaillais sur l'affiche. Si parmi vous, il y en a, je vous ai montré, je crois, à plusieurs reprises, Cassandre. Hein? Et Cassandre, lui, il s'inspire directement de Fernand Léger. Quand il fait... alors, pas pour des affiches objets... Mais quand il représente des engrenages, quand il représente notamment par rapport à aux rails, par rapport aux affiches qu'il va pouvoir faire pour les... C'est pas encore la SNCF, hein, c'est les différentes compagnies de chemin de fer. Il va s'inspirer de Fernand Léger. Hein. Et retournez voir les affiches de Cassandre et vous verrez, parfois on a ces formes de cylindres et travailler comme ça dans la grisaille, le noir, donner justement de la brillance finalement. Hein. On a l'impression de voir de l'acier. Parce que justement Cassandre, lui, dans l'affiche, il montrera l'acier. Et là, on a vraiment la même impression dans ses dessins. Et dessin très puissant, très fort. Alors, je reviens en arrière pour vous remontrer la partie de carte. Hein. Regardez un petit peu, là, ce dessin hein, des soldats qui jouent aux cartes. Donc, je repasse ici et je vous montre la partie de carte de 1917. Alors, les cartes, vous les voyez, hein, je pense. Là, elles sont bien lisibles. Hein, vous les avez là. Et vous voyez bien les mains des soldats. Vous voyez comment ils jouent avec les cylindres. Hein, là aussi, je peux vous les... Alors, regardez tous ces cylindres métalliques. Tout ce côté très, très métallique. Alors, vous voyez, très figuratif. Vous voyez comment sont les doigts. On a l'impression davantage de robots. Oui, hein, on a vraiment cette impression hein, d'avoir des robots. Donc, il a été gazé à Verdun en 1917 et il est hospitalisé. Et c'est à l'hôpital qu'il va reprendre ses pinceaux et pour créer cette partie de cartes. Là, elle n'est pas faite dans les tranchées. Hein. Et ce thème, bien sûr, il l'emprunte. À qui? Qui est-ce qui a dessiné la partie, qui a peint la partie de carte? Cézanne, oui. Hein, je vous montrerai après. Et alors, en fait, ici, il représente des soldats qui jouent au-dessus d'une table en piètre-état, enfermés dans un espace clos, bien sûr, qui évoque la caserne. Leur forme géométrique rappelle simplement le cubisme, hein, mais c'est les formes géométriques à la Léger, j'ai envie de dire. Mais, comme je vous le disais, là, on a vraiment l'impression d'avoir davantage des robots que des êtres humains, bien sûr. Hein. Même si certains ont une pipe à la bouche, ah oui, il y a notamment celui qui est devant, là. Là, ici, vous voyez la pipe. Ça rappelle le cubisme. Hein? On a ce style de pipe dans les tableaux cubistes. Même s'ils ont une pile à la bouche, c'est pas facile de déceler leur regard. Hein? Leur regard, de toute façon, même s'ils jouent aux cartes, ne doivent quand même pas être très joyeux. Hein? Vous imaginez. Leurs bras deviennent complètement mécaniques. donc bras de robot. Leur tête reste casquée pour bien qu'on les identifie. Hein, ce sont des soldats, des poilus. Ce sont des êtres totalement désincarnés. Et là, ça, ils le montrent très très bien. Hein. Des coquilles vides, brisées par la guerre. Et là, eh bien, on peut retourner voir les tableaux des expressionnistes allemands qui représentent justement les œuvres, qui représentent les... Il y a aussi, ils jouent au scat, les Allemands dans la rue, et il y a un chien qui lève la patte en passant, hein, qui sont ignorés de tous sauf d'un chien, et ce sont des gueules cassées, hein, comme c'était le terme qui était employé. Hein. Et justement, le seul être vivant qui va s'intéresser à eux, c'est un chien qui lève la patte sur eux. Donc, voyez un petit peu. Eh bien, là, c'est une autre forme, une autre façon de montrer ces êtres qui souffrent comme on ne peut pas imaginer. Hein. Ils montrent l'horreur des amputations, des corps rafistolés après le combat. On l'a rafistolé comme on a pu. D'ailleurs, j'ai entendu, je crois que c'est aujourd'hui que sort le film 1917, hein, que je, sans l'avoir vu, mais j'ai quand même écouté beaucoup de critiques. Je pense qu'il faut vraiment aller voir ce film. Sauf si on ne peut pas, hein, ça je comprends aussi, peut-être certaines personnes après ne peuvent pas. Hein. Et c'est vrai que, pour Fernand Léger, ce tableau, il reste capital, parce que c'est la première fois, mais vraiment la première fois, qu'il le prend totalement dans son époque. Là, il peut dire, j'y étais. Je l'ai vécu, c'est du direct. Et je cite, là, c'est Léger qui dit, sujet dans l'époque. C'est ses propres termes. Et désormais, suite à la guerre, sa vision du monde a totalement changé. Et tout va changer. Sa manière de peindre va changer pour le restant de toute sa carrière. Ça, il est marqué à vie par cela. C'est vraiment la guerre qui a changé sa vision du monde, sa lecture de l'homme, de l'être humain, de tout, de la souffrance, de tout. Et ça, c'est très très important. Je vous montre la partie de carte de Cézanne. Alors bien sûr, rien à voir. Hein. Vous la connaissez. C'est pas dans les tranchées, c'est pas le... Mais néanmoins, ça vient de là. Il s'est inspiré de ça. Mais justement, vous voyez, là, tout à l'heure, je vous parlais de désincarnés. Là, au contraire, ils sont bien en chair. Hein. Ils sont dans leur partie de carte, vraiment. Hein, puis il y a celui qui surveille derrière, on est vraiment, bah c'est vraiment du Cézanne. Et quand on revient là, vous voyez toute la différence. Pour un tableau qui, dans les deux cas, ce sont deux tableaux figuratifs. Hein, ce n'est pas de l'art abstrait. Il y a un sujet très fort. Bien, alors, le cirque Medrano. Alors, le cirque Medrano, il a été pendant très très longtemps basé place Clichy. Là, on revient à Montmartre. Hein, il était dans le bas de Montmartre, à la place Clichy. Et le cirque a toujours été une inspiration pour les artistes. Hein. Alors, Degas, Renoir, Seurat, Toulouse-Lautrec, tous ont représenté le cirque. Mais le cirque va également être un sujet pour les artistes du XXe. Picasso, hein, en priorité. Notamment pour le cirque Medrano, justement, quand il était au bateau Lavoir, hein, il a beaucoup représenté le cirque, hein, mais aussi pour Archipenko, ça ce sont des artistes, là je reviens à Montparnasse, Archipenko, Chagall, le sculpteur Laurence, donc Fernand Léger, Van Dongen, Kees Van Dongen, etc. Hein, je ne vais pas tous vous les citer. Et bien sûr, celui qui a été vraiment touché, bah peut-être aussi parce que dans l'origine du cirque, il y a un peu aussi peut-être l'Espagne, il y a les saltimbanques, bah c'est Picasso, hein, bien sûr. Et il va représenter énormément de toiles, où il va même représenter lui aussi le cirque Medrano, parce que c'était celui qui était pour eux le plus accessible. Mais vous pourrez retourner voir tous les portraits de Saltimbanque qu'a fait Picasso. Là, c'est du Picasso vraiment figuratif, hein, pas le figuratif du cubisme. Là, c'est vraiment le figuratif. Et donc, ce cirque qui se situait exactement au boulevard Rochechouart tombera sous la purge des démolisseurs en 1972. Hein, on pouvait le voir jusqu'en 1972. C'est assez terrible qu'il ait été démoli. Hein. Et il était en fait... il avait pour enseigne Medrano depuis 1897. Donc, il a quand même vécu presque 100 ans. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si dans le tableau, il utilise des lettres comme faisaient les cubistes. Hein. Vous avez Medrano, hein, le no apparaît pas. Là, c'est vraiment... Si, le no, il apparaît plus bas. Pas vraiment, vous voyez. Pardon. Ah, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ah ben, il faut que je revienne en arrière, s'il veut bien. Voilà. Je me débrouille un peu mieux avec la flèche. Donc là, vous avez mes draps. Là, éventuellement, vous pouvez imaginer le no. Là, vous avez les horaires, voyez. Donc, on fait allusion à tout ça. Hein. Le cirque Medrano, ce tableau date de 1918. Hein. Donc là, on est sorti de la guerre. Hein. Il est un petit peu plus joyeux, hein, que par rapport aux joueurs de cartes. Mais voyez toujours, voyez comment maintenant, il va utiliser justement ces formes. Hein. Ce que l'on avait, toutes ces couleurs métalliques, vous voyez. Et puis là, bah, bien sûr, maintenant, il va introduire alors les couleurs, le rouge, les couleurs primaires. Hein, ce n'est pas vraiment du jaune, c'est plus de l'encre que du jaune. Mais nous avons là, il y a un petit peu de jaune quand même. Il y a le rouge, le bleu, et puis il y a les complémentaires. Il y a l'orange, le vert. Vous voyez comment c'est avec des personnages. Hein, là, sur le cheval, on suppose que c'est un cheval. Et voilà comment il va désormais envisager. Alors, je vous ai remis le cirque de Seurat, hein, là, vraiment typique du pointillisme. On l'avait travaillé, hein, donc je ne vais pas insister, c'était juste pour vous le montrer. Et en 1920, autre tableau, alors maintenant dans cette verve, le mécanicien. Alors, oui, alors je vous précise que c'est donc 1920, parce que parfois on l'a daté 1918 dans certains ouvrages et c'est une erreur, hein, il est bien de 1920, j'ai vérifié. Donc en fait ici, nouvel héros, si on vit au temps des machines, alors l'homme moderne, eh bien qui est-ce qui s'occupe des machines? Eh bien c'est le mécanicien, c'est lui qui gère, c'est lui qui soigne et qui actionne les machines. Donc, ici, il replace volontairement l'humain au cœur de son tableau. Mais cette fois, l'humain. Hein, ce ne sont plus les joueurs de cartes de la guerre. Par contre, c'est un Normand, c'est un homme fort. Hein, vous voyez, il a des muscles. Il est très à l'aise au milieu des machines. Vous voyez pas les muscles? Ah, ben c'est... Non, ben vous voyez bien quand même, il n'est pas tout mou. En plus, regardez, mesdames, il est tatoué. Ça, c'est très à la mode à l'époque. Et le tatouage, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient de la marine. Hein? Quand même, je pense. Non, mais les muscles, il les montre à la façon... Évidemment, c'est des muscles représentés à la façon léger. Bien sûr, mais bon, c'est quelqu'un de solide. Par contre, il se détache sur un fond qui est très stylisé, qui fait un clin d'œil à qui? À Mondrian, bien sûr. Hein. Et en fait, on aperçoit les rouages de ce dont il doit s'occuper, hein, plus ou moins. Ce qu'on pourrait appeler le monstre métallique dont il doit s'occuper, ce mécanicien. Alors, il ne nous fait pas face, hein, il ne nous regarde pas. Son corps, il est... Bien sûr, quand je vous ai parlé de musculature, on pourrait presque dire c'est caricatural. Hein, c'est volontaire. Et pour léger, la figure humaine, c'est pour ça qu'il le fait caricatural, même s'il le fait fort. Parce que pour Léger, désormais, la figure humaine, elle va devenir simplement un motif parmi d'autres. Un petit peu comme l'avait fait, dans un tout autre contexte, Matisse, quand il avait représenté Madame Matisse à la Raie Verte. Hein, je vous avais dit, il avait pris volontairement sa femme pour ne pas avoir de représailles. Hein, en lui mettant cette Raie Verte sur le nez. Voilà, sa femme, elle n'allait rien lui dire. Ça passait. Et il aurait pris une personne très célèbre, ça aurait été plus difficile. Et bien là, c'est la même chose. Maintenant, c'est plus qu'un élément, l'être humain. Sauf que là, c'est le mécanicien, donc c'est quand même le héros de ce monde machiniste. D'ailleurs, l'art de... je ne voulais pas apporter cette fois parce que... comme j'ai quitté très tard mon collège et je ne voulais pas trop me charger, je ne savais pas comment j'allais... où allait me poser mon collègue qui m'a donc amené jusqu'à Châlons. Donc, je m'étais dit, pour marcher jusqu'à la maison des syndicats, je ne vais pas amener des livres trop lourds. Mais je vous apporterai un catalogue d'expositions que j'ai eu la chance de voir il y a nombreuses années en arrière, quand j'étais encore étudiante, et justement qui se référait à cette forme d'art que l'on appelle l'art machiniste. Et le catalogue était très, très bien fait. Il s'ouvre comme s'il y avait des engrenages. Je vous apporterai ça la prochaine fois. La couverture est grise, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit encore... achetable malheureusement, mais il était très... Pour moi, c'est une pièce de collection, ce catalogue. Et en fait, il est constitué, si vous regardez bien, uniquement de formes géométriques qui s'emboîtent, finalement, ce corps. Hein. Ce qui se traduit par ce n'est plus l'homme qui fait la machine, mais c'est la machine qui fait l'homme. Hein, on peut le traduire comme ça. D'accord ? Alors, ici, il a illustré... Alors, moi, c'est très bien que vous m'ayez trouvé ceci, parce que dans le catalogue que j'ai par rapport à Beaubourg, pas celui de 2017, décidément, j'y tiens, à 1917, pas celui de 2017 du Beaubourg-Metz, mais dans un autre catalogue d'une expo qui avait eu lieu à Beaubourg, à Paris, j'avais des dessins pour cet ouvrage. Mais c'est bien que M. Collin ait pu me trouver là. Donc, en fait, vous avez la couverture, hein, première de couverture à votre droite, hein, et quatrième de couverture à votre gauche. Donc, Fernand Léger a illustré cet ouvrage à l'intérieur et a illustré également l'extérieur. Il s'est intéressé beaucoup aussi, Léger, à la... C'est quelqu'un qui est ouvert à toutes les formes d'art. Hein. Donc, il s'est aussi beaucoup intéressé à la littérature. Je n'ai pas repris ma biographie, je vais vite la reprendre. Donc, vous l'avez bien compris, maintenant, ce qui intéresse Léger, donc on va faire 1918-1930, je terminerai certainement pas 1930 aujourd'hui, parce que je ne sais pas quelle heure il est pour que je... Il nous reste 5 minutes ?
Oui, encore 5 minutes.
Donc le film, on le présentera la fois prochaine. Hein, voilà. Alors, donc, je vais quand même vous lire ça. Peindre la vie moderne, ville, machine, objet. C'est vraiment maintenant ce qui va intéresser. Donc, les thèmes de la ville, de la machine, retiennent l'attention de Léger. Inspiré par la vie moderne, il prône ce qu'on appelle un nouveau réalisme, c'est ses propres mots à lui, accordé à la beauté plastique de la civilisation industrielle. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça qui va l'intéresser. Conscient que la peinture est concurrencée par le spectacle de la grande ville, il intègre à ses compositions signaux urbains et motifs mécaniques, tandis que la figure humaine, désensualisée, standardisée, est réduite uniquement à la géométrie. Hein, c'est ce que vous avez pu voir. Et on en arrive là, dans les années 20, multiples collaborations qui permettent aux peintres de s'ouvrir à tous les champs de la création, ou du moins tous ceux qu'il peut envisager, littérature, ce que vous avez ici, spectacle vivant, architecture. Et il est fasciné, donc ça va être mon introduction pour ce qui va suivre la prochaine séquence. Il est fasciné par le cinéma. Et il va donc travailler avec des réalisateurs tels que Abel Gance. Alors, ce qui serait bien, c'est que pour la prochaine fois, si vous pouvez, c'est que vous regardiez quelques séquences de La Roue d'Abel Gance. Ce film qui s'appelle La Roue. Même sans regarder le film dans son intégralité, si vous pouvez trouver sur vos internets quelques séquences de La Roue et regarder. Et également, un film, moi quand je faisais mes études, ça j'oublierai jamais, il était passé. Je me souviens, j'étais encore étudiante, donc on était, il y avait une petite télé, j'habitais dans un pavillon universitaire, une petite télé en bas. Je m'étais précipitée le soir parce que notre professeur Serge Lemoine nous avait dit d'aller voir L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, où il y a là, dans le film des décors de Fernand Léger. Donc il va travailler à ces films, mais surtout... il va sortir un film, lui, il va créer un film sans scénario, un film qui dure selon, on le trouve à 12 minutes, à 16 minutes, on le trouve un petit peu plus long, mais peu importe. Ce film s'appelle Le Ballet Mécanique, mais attention, quand on le cherche, c'est très drôle, parce que quand on le cherche sur, moi j'ai fait chercher, puis j'ai assisté à la recherche que m'a fait une collègue, Le Ballet AI, Mécanique. Alors vous avez Amazon qui s'affiche, qui vous vend des balais mécaniques en promotion. Sauf que moi, mon balai à moi, il a dosé le thé. Ah mais il est mécanique quand même. Donc n'allez pas le voir pour le moment, j'ai pas envie. Hein. Je vous l'ai donné volontairement, mais soyez sympa. Allez plutôt voir La Roue d'Abel Gance. Regardez des extraits ou en entier, comme vous voudrez. Revoyez, si vous le pouvez, aussi L'Inhumaine ou des extraits de L'Inhumaine de Marcel L'Herbier. Et puis nous démarrons avec Le Ballet Mécanique, que je vous passerai, parce que j'aimerais que vous le découvriez, et après j'expliquerai. Quitte à ce qu'on le passe deux fois, c'est pas gênant. Je vous remercie infiniment. Et puis je suis vraiment désolée pour l'incident, qui n'était pas de mon fait. Merci. Bonne fin de journée à vous tous.
Alors la prochaine séance, c'est le 12 février. Donc à une salle indéterminée. Et on va vérifier que Claudine est bien informée. Parce que dans ces périodes troublées, on ne sait jamais comment ça va se terminer.
Je vous appellerai la veille, c'est plus simple. Et puis j'appellerai Monsieur Colin également. Voilà, merci. Je peux vous voir.